c'est Lambadoudou qui accélère, Lambadoudou qui termine, Lambadoudou est champion du monde.
Pas ça, Zinedine. Oh non. Oh non, pas ça.
Regardez, l'équipe de France qui fait la saga.
Attention, saga Africa, ambiance de la
has the power to change the world. It has the power to unite people.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'émission Vivons Sport sur Cause Commune. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur 93.fm à Paris et en Ile-de-France et partout ailleurs sur causecommune.fm. Vous retrouverez le podcast sur l'application Cause Commune et l'application Apple Podcast sur le site et les réseaux sociaux. Merci par avance pour vos remarques, vos annonces, vos questions sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter X et mon compte LinkedIn Karine Bloch et sur le chat sur le canal Vivons Sport. L'émission de ce jour est sur l'héritage de Paris 2024. En amont de cet événement exceptionnel, nous avons évoqué les enjeux. Au cœur des Jeux, nous avons interrogé de nombreux acteurs qui se sont exprimés sur la manière dont ils les vivaient et sur leurs attentes pour la suite. Nous avons ainsi reçu des athlètes, des ex-sportifs de haut niveau, des dirigeants du mouvement sportif, de l'entrepreneuriat social et solidaire, des bénévoles, des chercheurs. Et maintenant, devons-nous passer à autre chose ? Les acteurs du monde sportif et nos auditeurs ont déjà entendu plusieurs fois parler de l'héritage des événements et plus particulièrement des Jeux olympiques et paralympiques. Mais qu'en est-il précisément ? Qu'est-ce qui a été mis en place pour cet héritage ? Qu'est-ce qui a été fait depuis que l'on a dit au revoir aux délégations ? En quoi le calendrier des différents acteurs, le contexte politique influe-t-il sur cet héritage ? Ou pas ? Y aura-t-il véritablement un avant et un après ? Devons-nous nous réjouir ou nous inquiéter de l'accueil des Jeux d'hiver de 2030 ? Pour répondre à ces questions et quelques autres, trois personnalités engagées sur cette question d'héritage. Nous avons ainsi le plaisir d'accueillir en studio Gilles Herbe. Bonjour Gilles.
Bonjour Karine.
Tu es président de la commission Héritage 2024, initiée par le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques et entérinée par l'Agence Nationale du Sport. Tu es membre du bureau élargi du comité olympique et sportif français, dont tu es président de la commission des territoires et membre du comité de pilotage sur la loi Héritage. Tu es président de la Fédération française de tennis de table et professeur agrégé en EPS et docteur en STAPS. STAPS, je rappelle que c'est sciences et techniques des activités physiques et sportives, donc docteur en STAPS à l'Université de Strasbourg. Je sais qu'il y a encore d'autres choses, mais ça fait déjà gros programme.
C'est déjà beaucoup.
Et c'est juste au moins.
Absolument.
Nous sommes également heureux de recevoir en plateau Élie Patrigeon. Bonjour Élie.
Bonjour.
Tu es directeur général du Comité paralympique et sportif français, le CPSF, qui est représenté à la Commission Héritage 2024. Et nous sommes contents d'avoir en ligne également Virgile Caillet. Bonjour Virgile, pardon.
Bonjour Karine, bonjour à toutes, bonjour Gilles, bonjour Élie.
Tu es délégué général de l'Union Sport et Cycle. Je rappelle que c'est la première organisation professionnelle de la filière sport. Vous rassemblez plus de 3000 entreprises, des marques, des points de vente, des établissements de pratique. Et tu es également membre de la commission Héritage 2024. Tu es d'ailleurs en ligne depuis...
Absolument.
Et tu es en ligne depuis Pau, au Congrès international du tourisme sportif. Tu auras l'occasion d'ailleurs de nous en parler. Un très grand merci à Jérôme Sorel pour la réalisation de cette émission. Et bienvenue à Maud Tardieu, journaliste qui assiste à l'émission avant de nous rejoindre, nous l'espérons, pour des chroniques. Alors, on va parler beaucoup d'héritage. L'évaluation, ce sera plus sur une prochaine émission, mais il faut quand même faire un retour en arrière. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous les avez vécus, ces Jeux olympiques et paralympiques ? Élie, peut-être ?
Alors évidemment, c'était une forme de parenthèse enchantée quand ça fait des années qu'on participe à l'organisation, à la préparation, à la planification d'un tel événement. On projette sur cet événement beaucoup d'attentes, beaucoup d'envie et peut-être même une forme de rêve, c'est-à-dire qu'on espérait que ça se passe le mieux possible avec une forme d'amplification au maximum de ce qui allait se passer sur le terrain, c'est-à-dire d'abord du sport et dans le champ paralympique, la projection telle qu'on ne l'avait jamais vue d'athlètes paralympiques peu visible ces dernières années et qui, de notre point de vue, méritait d'avoir une reconnaissance de très haut niveau. C'est ce qui s'est passé. Je crois qu'on a vécu un moment incroyable. du début des Jeux Olympiques à la fin des Jeux Paralympiques, de la même intensité. C'était aussi d'ailleurs quelque chose de fabuleux, c'est-à-dire qu'on était dans un moment dont on ne distinguait pas l'un ou l'autre des événements. On était dans un moment qui fédérait autour des Bleus une forme d'enthousiasme partagé, collectif, d'une ampleur absolument inédite. Et puis, au-delà de ça, une forme de fierté collective aussi, d'un événement dont on avait pu dire qu'il n'était pas, qu'il allait connaître un certain nombre de problèmes organisationnels, logistiques, opérationnels, etc., et qui s'est déroulé de la meilleure des façons. Donc, retenons ça d'abord, un événement réussi qui a projeté du sport partout, chez tout le monde, tout le temps, pendant tout un été dont tout le monde se souviendra.
Merci. Et toi, Gilles ?
Oui, il y a dit beaucoup de choses déjà. D'abord, le rêve de ces Jeux, je crois qu'on a tous vécu pendant une petite dizaine d'années autour de ce rêve. Et finalement, avec la pluie de critiques qui s'est abattue avant les Jeux, on avait presque un petit peu peur qu'on soit pas capable de livrer ces Jeux à la hauteur des attentes. Et au final, ça a été vraiment une explosion de joie, de concorde, avec un pari qui s'est donné aux Jeux, avec des sites vraiment iconiques, des volontaires qui ont apporté le petit plus de ces Jeux, j'ai trouvé. Et puis évidemment, des athlètes qui ont été présents et qui ont accompli de formidables performances, emmenant avec eux toute la foule dans tous les stades. Ça a été vraiment de très très grands moments, beaucoup d'émotions. J'ai aussi adoré ces cérémonies d'ouverture qui ont été à la fois très différentes, mais à la fois qui étaient bien en lien les unes avec les autres. J'ai adoré ces Jeux Olympiques et ces Jeux Paralympiques qui n'ont fait finalement qu'un. Et ça, c'est vraiment un élément très puissant, enfin moi, qui m'a beaucoup marqué dans ces Jeux qui, et en termes d'héritage, on en parlera tout à l'heure, mais sans doute là, il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui s'est passé. Et puis, je crois que c'est finalement un sentiment de fierté qui domine quelques semaines après ces Jeux, de dire... voilà, la France a été présent au rendez-vous pour marquer peut-être l'histoire des Jeux.
Alors, Virgile, toi, t'es comme moi, t'avais peut-être moins la pression pour l'équipe de France, même si on était content qu'elle brille. Comment tu as trouvé ces Jeux, toi ?
Alors, Gilles et Élie ont parfaitement résumé la situation, c'est-à-dire que ces Jeux olympiques et paralympiques ont été au-delà de tous les espoirs, voire les rêves qu'on aurait pu formulé dans les 10 années de préparation. Moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est au-delà des performances, au-delà des belles histoires, c'est l'impact effectivement sur le quotidien des Français. Alors effectivement, ça peut devenir une parenthèse enchantée. Moi, j'aimerais tellement que ça ne soit pas, que ça soit finalement plutôt un peu de la vraie vie qu'on aimerait retrouver. Ce bonheur partagé, cette émotion partagée, ce plaisir collectif, c'est ce que j'ai envie de retenir, quoi. Des gens heureux dans les stades, heureux dans les tribunes, la notion de sport, d'activité physique qui transpire dans toutes les strates de la société, une ville heureuse, enfin, c'est ça que j'ai envie de retenir, et le fait effectivement, la traduction, la démonstration que le sport c'est pas que du sport, elle est pas de moi cette formule, elle a déjà été utilisée de nombreuses fois, mais là elle était tellement vraie. Ces notions de solidarité, de tout ce qui vient de vous dire. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à entretenir et qu'on arrive à inscrire dans la durée. Donc on va parler d'héritage évidemment, mais cette fameuse reconnaissance pour laquelle on se bat depuis des années, eh bien là, on en avait la plus belle des démonstrations. Il faut qu'on arrive à installer ça dans la durée, quand bien même il y aurait des problématiques sur les comptes publics, quand bien même on aurait une forme d'anxiété, d'anxiogénéité dans notre vie du quotidien. Le sport fait partie de la solution incontestablement.
Alors, on va pouvoir détailler ce qui va être comme levier, puis ce qui peut inquiéter. En tout cas, on sait que ce monde-là est possible maintenant. On parlera un peu plus tard donc des héritages, du véritable impact, mais quand même, est-ce qu'on peut déjà noter des effets, ce qu'on appelait les effets Jeux paralympiques, juste sur les quelques jours d'après, ou quelques semaines maintenant.
Bon, allez. Moi, d'une manière très très simple, hein, je prends ma casquette de président de fédération de tennis de table. Bon, ben, dès la fin des Jeux, ça a été un engouement extrêmement puissant, je dirais une déferlante dans nos clubs. Et là, on a mesuré très très rapidement la portée des Jeux et l'envie que qu'ont les enfants, mais aussi les adultes, à faire du sport, à bouger plus et en plus grand nombre. Donc ça s'est traduit presque immédiatement dans notre cas.
Dans les achats de raquettes et tout.
Alors oui, on a quelques indicateurs qui sont assez puissants. Carrefour qui vend 548% de raquettes en plus au mois d'août. Cornio, je sais pas s'il faut les citer hein, ou pas, mais en tout cas, Cornio qui vend 60% de tables en plus. Au mois d'août, bon, on voit bien l'engouement et c'est intéressant la vente de tables supplémentaires, parce que la vente de tables supplémentaires, ce sont pas des ventes ou des achats de clubs, ce sont des achats de particuliers, donc qui vont faire, qui veulent bouger davantage, qui se sont projetés dans une discipline qui les a fait rêver pendant les Jeux, et ils ont envie de prolonger ce moment peut-être chez eux avec des amis et c'est peut-être ça le plus important.
Alors, il faut dire que le président de la République avait choisi de remettre la médaille non seulement à Félix Lebrun, mais aussi à Flora Vautier. C'est ce qui permet de faire le pont vers les Jeux paralympiques, hors tennis, en plus du tennis de table, et surtout le sport inclusif, le sport pour le parasport. Est-ce qu'on a déjà quelques effets?
Alors, il est difficile de le mesurer à ce stade pour une raison simple, c'est que l'accès à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, elle repose sur un pas mal de maillons d'une chaîne assez complexe, qui est d'ailleurs très différente selon les types de handicap et qui fait qu'en réalité, l'effet n'est pas immédiat, ne peut pas être immédiat. On note quand même, malgré tout, une appétence assez forte des publics, qui est peut-être rendue par quelque chose d'assez immatériel, mais qui nous paraît être le premier leg de ces Jeux, c'est la fierté. C'est-à-dire que quand vous avez une Aurélie Aubert, la joueuse de boccia, qui va gagner sa médaille et qui va aller la célébrer de la manière dont on sait, bah évidemment, en fait, vous avez une création d'un rôle modèle pour des gens qui n'ont jamais de rôle modèle équivalent à eux-mêmes, qui est absolument fondamental. Et là, pour le coup, on note d'ores et déjà une volonté dans les établissements de faire beaucoup plus de boccia qu'ils n'en faisaient juste avant, parce que là, ils avaient quelque chose qui était un véritable moteur, une véritable traction phénoménale, fondamentale. Le deuxième élément sur lequel, pour le coup, on note très vite une progression, c'est que, je le disais, l'accès à la pratique sportive des personnes en situation de handicap repose sur une mobilisation très large d'acteurs. Ça ne peut pas se faire juste par la volonté d'un seul type d'acteur ou d'une seule personne. Et on note une volonté collective des acteurs de se mobiliser sur cette question-là. C'est-à-dire qu'ils ont compris, je crois, que d'une part, la population en situation de handicap dans ce pays, c'est 15% de la population, c'est 12 millions de personnes. Donc c'est absolument fondamental en termes d'enjeu social et sociétal. Et qu'ils avaient un rôle, une responsabilité dans justement l'ensemble de ces petits chaînons qui amènent à la pratique sportive. Et donc on note de la part des collectivités territoriales, on a reçu beaucoup d'invitations ces derniers temps à y réfléchir, de la part des collectivités territoriales, mais aussi de la part des acteurs sportifs qui n'étaient pas nécessairement structurellement mobilisés sur la question du sport handicap, du parasport. Sport, comme on dit chez nous, qui ont envie de s'y mettre. Et ça, c'est aussi un des premiers éléments très significatifs qu'on est en train de noter de notre point de vue.
Oui, peut-être, Élie, mais je me doute bien que c'est dans tous les esprits. C'est accueillir des personnes en situation de handicap, ça se décrète pas du jour au lendemain. Et donc peut-être que l'effet va être un peu plus tardif, parce qu'il faut s'y préparer, il faut s'y organiser, exactement. Il faut former des gens, etc. Donc je conçois assez aisément, et je vais dans ton sens, que peut-être il y aura différents temps, peut-être dans cet héritage. Et que tout le monde n'aura pas forcément, va pas recueillir forcément tout de suite les fruits de ces Jeux olympiques et paralympiques.
C'est pour ça que par la suite, on verra, on se demandera aussi, on s'interrogera pour comment faire pour réussir cette partie-là. Virgile, donc je disais que tu es au congrès sur le tourisme sportif. Est-ce que là, on a des échos déjà du rayonnement qu'a apporté ces Jeux à la France ?
Alors, le rayonnement, il est incontestable. Les retombées en ce qui concerne le secteur des entreprises du sport et des loisirs sportifs, hein, tout ce qui est articles de sport et de loisirs, en fait, on est dans une situation un peu paradoxale parce qu'on n'a jamais autant entendu parler de sport depuis le début de l'année en France. On n'en a jamais vu autant. Hein. N'oublions pas qu'il y avait avant l'Euro de football. Enfin, on a eu une succession pendant tout l'été entre l'Euro, Roland-Garros, le Tour de France et les Jeux, d'événements sportifs qui ont fait briller à la fois nos couleurs et puis briller les yeux des Français. Et pourtant, sur notre secteur des articles de sport et de loisirs, eh bien, on est sur un premier semestre qui était extrêmement plat, une progression minime rapportée au coût de l'inflation, on est presque même flat en vérité. Heureusement, on a senti donc un rebond. Alors, Gilles évoquait des chiffres impressionnants s'agissant du tennis de table. Alors, c'est rapporté au mois d'août de l'an dernier, donc il faut un peu relativiser. Mais incontestablement, on a eu quand même un rebond au mois d'août. Et ce qui va être déterminant, c'est de regarder les chiffres là sur septembre-octobre. Est-ce qu'effectivement, ça a engagé les Français à pratiquer plus et donc, par conséquent, à avoir une consommation un petit peu plus élevée sur les articles sport et loisirs. Alors, on se plaint pas, hein, parce que ça doit être 10 années de progression régulière, mais il y avait un côté un petit peu anachronique entre cet engouement, cet enthousiasme autour du sport et des pratiques d'activité sportive, et puis un secteur industriel, économique, qui était quand même plutôt à la peine. Je le disais, sur le mois d'août, on a des très bons chiffres. Sur le mois de septembre, les chiffres seront bons également. Il y a un autre élément, sans rentrer dans des considérations trop techniques, mais il y a un autre élément qui n'a pas forcément joué aussi en la faveur du sport, c'est la météo. On a une météo qui est quand même assez catastrophique depuis le début de l'année et qui est à contre-temps, c'est-à-dire que cet hiver, il n'a pas fait vraiment froid, et puis on n'a pas eu de printemps. Là, on voit bien que l'automne, on est en train de basculer directement à l'hiver. Enfin, je sais que vous êtes sous la pluie encore aujourd'hui, hier c'était terrible. Donc c'est voilà, ça c'est pas des éléments qui jouent en notre faveur, mais globalement, on a quand même là des indicateurs qui basculent dans le vert, qui basculent dans le positif. Et puis, autre élément, et j'en terminerai là-dessus, on a l'impression que le sport s'invite dans des secteurs où on ne l'attendait pas forcément. Là, effectivement, tu faisais référence, on est sur le congrès du tourisme sportif. Eh bien, effectivement, tous les acteurs du tourisme se disent, mais finalement, les Français et les étrangers aspirent à avoir des vacances actives et sportives. On a sur notre territoire français un terrain de jeu qui est exceptionnel. Eh bien, ouvrons ce chapitre du tourisme sportif parce qu'il y a un levier de croissance qui est considérable, à la fois pour le tourisme, mais évidemment aussi pour le sport.
Alors, on reparlera véritablement de l'héritage dans la deuxième partie de l'émission, donc sur les effets et l'impact plus long. On va faire la pause musicale avec ton choix, Gilles. Est-ce que tu t'en souviens ? Parce que des fois, j'ai des invités qui...
Oui. C'était lors de cette cérémonie de clôture des Jeux paralympiques et cette chanteuse Santa qui a chanté cette chanson que tout le monde connaît. De Johnny Hallyday.
Vivre pour le meilleur.
Vivre pour le meilleur, et qui a été pour moi un moment assez intense. J'ai adoré, voilà, pour le dire simplement.
Cause commune.
Des gens qui cherchent la lumière en pleine nuit. Des gens qui courent après l'amour et qui le fuient. Des bras qui se lèvent pour un Dieu qu'il ne voit pas. Moi j'ai ta chair contre ma chair, en ça je crois. Qui n'ont que l'illusion d'attendre un signe, et les femmes qui pleurent leurs enfants et restent dignes.
bien sur Cause Commune dans votre émission Vivons Sport. L'émission de ce jour est sur l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques. Nous sommes toujours en studio avec Gilles Herre, président de la commission Héritage 2024, membre du bureau élargi du Comité Olympique et Sportif Français, président de la Fédération Française de Tennis de Table, Élie Patrigeon, directeur du Comité Paralympique et Sportif Français, et nous sommes en ligne avec Virgile Caillet, délégué général de l'Union Sport et Cycle. Gilles, maintenant on va vraiment rentrer dans l'héritage, l'impact plus long. Est-ce que tu peux nous redéfinir un peu ce qu'on appelle cet héritage des Jeux, et après on parlera de la Commission.
Oui, l'héritage des Jeux, donc c'est évidemment ce qui va rester suite à ces Jeux Olympiques et qui a été initié aussi par ces Jeux Olympiques. Alors, dans un temps, on l'a dit, plus ou moins long et dans différents secteurs. Alors, bien sûr, on distinguera l'héritage tangible, c'est-à-dire les installations sportives, les choses
tout qu'on... les infrastructures.
Les infrastructures, voilà. Donc là, évidemment, on pourra citer le travail qui a été fait sur la Seine, le village olympique, la piscine à Saint-Denis, mais aussi la ligne du métro... 14 qui a été fait, mais aussi des choses plus qui sont pas des nouvelles constructions, mais par exemple la rénovation du Grand Palais qui a été faite pour ces Jeux. Voilà, enfin quelques exemples, l'héritage tangible, et puis un héritage intangible aussi qui ne se traduit pas dans des constructions, mais qui sont très fortes en termes de valeur et de vision pour l'avenir, comme par exemple les Jeux paritaires. Voilà, je pense qu'on reviendra jamais dessus. Je pense que c'est un acquis pour l'avenir. L'inclusion a été vraiment un élément très puissant de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Et je crois que c'était une occasion de parler, de mettre en valeur les athlètes paralympiques, non pas en se focalisant sur leur handicap, mais encore davantage sur le talent qu'ils avaient. Et je crois que c'était une narration qui était tout à fait positive, intéressante, porteuse de valeur pour notre sport. Ou pour notre société plus largement, bien entendu. Voilà, donc l'héritage tangible, l'héritage intangible, immatériel. Je crois que ce sont ces deux aspects qu'il faut envisager, bien sûr.
On va après détailler comment ça peut se faire ou pas. Mais est-ce que tu peux déjà nous parler de cette commission pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agit ?
Oui, la commission héritage, ce n'est pas une commission qui va s'occuper de l'héritage dans son entièreté. C'est-à-dire que ici, cette commission héritage, c'est plutôt une commission qui va... réfléchir à la pérennité des programmes portés par le COJOP, donc le Comité d'organisation des Jeux Olympiques. Il y a aujourd'hui 10 programmes. Je vais en citer quelques-uns pour donner quelques exemples. Génération 2024, Aller les Bleus, Terre de Jeux, Impact 2024, 1, 2, 3 nager, voilà quelques programmes qui ont été initiés dans le cadre des Jeux Olympiques et dont il faut maintenant s'interroger, de savoir si on souhaite les conserver, qui va les porter, qui va les financer et quel intérêt ça a pour quelle cible finalement dans notre société.
Et du coup, Élie, je sais que quand on a préparé, tu m'as dit ce qui est important, c'est que tout le monde puisse aller dans le même sens, qui a permis la réussite des Jeux. Donc, qui constitue cette commission ? Et est-ce que justement, ça va, au moins, cette partie-là peut permettre d'avancer ?
Je crois qu'on est tous conscients qu'une des clés de la réussite des Jeux de Paris 2024, c'est d'abord un héritage méthodologique. Pour réussir les Jeux dans la capitale qu'on connaît, avec la complexité organisationnelle, administrative qu'on connaît, il a fallu fédérer autour du projet des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de Paris 2024 tous les acteurs dans le même sens pour travailler dans le même objectif, la délivrance de ces Jeux et maximiser leur impact. Et donc le premier héritage de ces Jeux, il est méthodologique, c'est-à-dire qu'on a été capable de faire ensemble, quand bien même il y avait des institutions dirigées par des bords politiques différents, il y avait des organisations qui n'avaient pas l'habitude l'habitude de travailler ensemble. Ça a généré et fait émerger une gouvernance partagée au sein de l'Agence nationale du sport en 2019. Et ça a permis le succès, je crois, en tout cas j'en suis assez convaincu, de ces Jeux de Paris 2024. L'idée de cette commission, c'est aussi de faire perdurer cet élément, cette dimension collective, avec un fort leadership évidemment du mouvement sportif et du comité olympique, parce que c'est son rôle aussi de conduire et de continuer à poursuivre cette dynamique, mais en même temps de fédérer l'ensemble des énergies autour. Et donc il y a tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces Jeux et qui forment de manière plus spécifique la gouvernance de l'agence. Virgile, tu l'as cité, en fait partie au nom du secteur marchand et qui lui aussi concourt évidemment par définition au développement du sport. Le sport fédéré et l'ensemble dans ses dimensions du sport fédéré, y compris le mouvement paralympique. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir tout le monde autour de la table pour continuer à fédérer ces énergies collectives et faire en sorte qu'on ne retourne pas chacun dans son couloir de nage après les Jeux et qu'on continue à bâtir ensemble ce qui a fait le succès de ces Jeux. Quand on fait la semaine olympique et paralympique, elle est réussie parce qu'il y a une mobilisation de l'éducation nationale qui va jusque dans chacune de ces classes, amener du contenu, mobiliser les énergies, impulser, animer le réseau de la communauté éducative en son sein, et ça va réussir parce que le mouvement sportif va amener de son côté ses connaissances, des contenus, une forme un petit peu différente d'approcher les activités physiques et sportives que celles que peut-être on a l'habitude de voir au sein de l'éducation nationale, et c'est ça qui fait la réussite de la semaine olympique et paralympique. Donc c'est comme ça qu'on peut continuer et à bâtir des programmes tout en les ayant sûrement évolué aussi. On n'est plus tout à fait dans la même dynamique. On a pu cet événement qui tend tout le monde, tend au sens premier du terme, le plus positif du terme, qui tend vers, qui mobilise chacun d'entre nous vers sa réussite. On a les Jeux 2030, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais au-delà de ça, capitaliser sur ce qu'on a réussi à faire collectivement ensemble.
Donc ça a bien marché d'avoir à la fois les pouvoirs publics, le mouvement sportif,
c'est une évidence,
et le privé. Virgile, là on a parlé de ce qui peut nous rendre optimistes par cette mutualisation des organisations. Maintenant, il y a un calendrier qui est un peu compliqué. Est-ce que tu peux nous parler du contexte politique, du calendrier dans lequel on est, et nous donner ton sentiment par rapport à ça?
Oui, je pense que c'est une bonne approche de bien préciser qu'il y a différents types d'héritages. Élie et Gilles ont évoqué la notion d'héritage des Jeux, donc le leg du COJOP, ou plutôt du CIO, parce qu'en vérité, tous ces actifs, dispositifs, programmes appartiennent finalement au CIO.
Le Comité international olympique.
Comment on va en pérenniser un certain nombre, comment on va les inscrire durablement dans nos programmes, comment le mouvement sportif et les acteurs économiques vont s'en emparer. Mais ce qui me semble presque le plus important, ça c'est un point qui est essentiel, il y a cette commission héritage dont vous avez parlé, et effectivement il va falloir aller assez rapidement malgré un contexte économique et politique qui est plutôt anxiogène et pas forcément souriant. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est est-ce qu'on va être capable de traduire l'héritage immatériel qui a été évoqué de ces Jeux. Et pour moi, c'est comment on est capable de faire, alors ça c'est le graal ultime, hein, c'est la quête, est-ce qu'on est capable d'évaluer l'impact social du sport dans notre pays? Moi, ce qui m'a frappé, je le disais tout à l'heure, c'était tous ces gens heureux, qui avaient la banane, qui avaient passé des moments formidables entre eux. Et le sport, indiscutablement, amène cette bonne humeur, amène ce plaisir partagé, amène cette convivialité dont on a absolument besoin aujourd'hui dans notre société. Ça amène plein d'autres choses, hein, notamment des enjeux de santé publique, une dimension extrêmement forte en matière d'éducation, de respect des règles, de cadre, etc. Les Jeux ont démontré tout cela. Il ne faudrait pas qu'on le perde au passage en raison d'un contexte économique et politique qui est plutôt négatif aujourd'hui. Et quand j'entends que probablement tous les ministères vont devoir faire des efforts et qu'on est en train de nous préparer à une baisse du crédit des sports, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. On a fait la démonstration que la pratique sportive, le sport est absolument indispensable pour le moral des Français, pour leur santé. Et on est en train de parler d'un budget du ministère des Sports qui est inférieur à 1 milliard d'euros, quand le budget de l'État est à 480 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on pèse que dalle dans le budget global. Et on va vouloir nous renier un petit quelque chose. Ça n'a pas de sens et c'est une incohérence politique à mon sens. Donc je ne sais pas comment le porter. En tout cas, nous, acteurs économiques, on considère qu'on a une véritable responsabilité dans l'héritage immatériel de ces jeux et on va accompagner également un certain nombre de programmes. Mais le sport collectivement, et là je rejoins totalement tout ce que vous venez de dire, collectivement, on doit réagir et on doit faire entendre notre voix. Parce qu'aujourd'hui, le sport, ça va bien au-delà, je ne vais pas me répéter, mais cette dimension sociale, elle est essentielle dans notre pays et le sport fait partie de la solution.
On avait choisi de faire notre première émission des Jeux sur l'innovation sociale et l'impact social et la prochaine sera sur l'évaluation elle-même. Gilles veut rebondir là-dessus.
Oui, je crois que je voudrais insister sur ce qui a été dit par Virgile, par Élie. L'héritage, c'est une responsabilité collective. C'est une responsabilité collective dans un contexte qui est pas très favorable. Alors évidemment, on va parler des inquiétudes qu'on peut avoir les uns et les autres, mais d'abord il faut, je crois, dire que c'est une responsabilité collective. Mmh. Union Sport et Cycle, Virgile en a parlé, moi je suis président d'une fédération, je crois qu'on a aussi une responsabilité que de développer des projets d'utilité sociale du sport, et à la fois dans les actes et à la fois dans la dimension des programmes et de la narration qu'on fait aujourd'hui du sport. Et ça, ça me semble être un élément majeur. Pour revenir sur les éléments dont a parlé Virgile, c'est sûr que aujourd'hui le contexte économique il va être un véritable problème. Et là, c'est à nous de peser avec les fédérations, le CNOSF, le CPSF, pour aller être au cœur des discussions, de pouvoir discuter avec les acteurs politiques de façon à ce qu'on puisse infléchir au maximum les décisions qui peuvent être prises. Nous, au CNOSF, on va travailler sur une loi héritage, même si on sait que le calendrier n'est pas favorable, parce que nous souhaitons être force de proposition vers les parlementaires avant même que le calendrier s'y prête.
Élie, quand on pense que le gouvernement a été constitué pendant les Jeux paralympiques, on parlait d'un avant et après, qu'on a oublié de faire même, de faire un ministère, j'allais dire des personnes, pour les personnes en situation handicap, mais même pas un libellé où ils étaient dans un ministère. Qu'est-ce que ça veut dire?
Bon, ça nous rappelle. Enfin, d'abord, le pays a une vie démocratique et il est normal que cette vie démocratique, elle continue. Et ça, quelle que soit notre position, on reste aussi, d'abord et avant tout, des citoyens de la République française, attachés à ce que la démocratie de notre pays fonctionne. Donc, à un moment donné, ce pays devait avoir un gouvernement. C'était aussi une nécessité, un impératif. Moi, de ce point de vue-là, je n'aimais pas de jugement de valeur sur le fait que le Premier ministre ait pu être nommé au milieu des Jeux paralympiques. J'aurais évidemment souhaité que ce soit pas le cas, mais néanmoins, c'est pas non plus un élément à charge, à mon sens, à l'encontre des Jeux paralympiques. Sur l'absence de ministère dédié sur le handicap, vous savez que c'est un vieux débat dans notre milieu, parce que justement quand on parle des publics spécifiques, et ça va bien au-delà du secteur du handicap, ça vient sur le secteur de l'ensemble des publics éloignés du sport, ou éloignés du droit commun de manière générale dans l'ensemble des dimensions de la vie publique, on se pose toujours la question est-ce qu'il faut que du droit commun et donc banaliser et dissoudre au sens le plus noble du terme cette question dans l'ensemble des champs d'activité des politiques publiques de ce pays, ou est-ce qu'il faut des acteurs spécifiques? Moi, je crois au fait qu'on a besoin d'un aiguillon encore, parce que l'intégration des personnes en situation de handicap, l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société reste largement imparfaite. C'est le premier motif de discrimination dans la vie quotidienne. Donc ça veut bien dire qu'il y a des éléments sociaux et sociétaux qui sont des obstacles à l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le droit commun. Donc, nécessité d'avoir un aiguillon. C'est heureux qu'il y en ait eu un qui soit intervenu une semaine après la nomination générale du gouvernement. Ça nous paraissait nécessaire, d'autant qu'on est quand même un peu à la croisée des chemins, y compris dans le champ du sport. C'est-à-dire que nous, on est convaincus au comité paralympique que la mobilisation du droit commun, c'est-à-dire de l'ensemble des acteurs qui, de manière quotidienne, concourent au développement des activités physiques et sportives, quelle quelle qu'elle soit, de quelque nature qu'elle se soit, et de quelque même régularité que ce soit, doivent être au rendez-vous de l'inclusion. On en est absolument convaincu, mais on a besoin néanmoins d'une expertise, de compétences spécifiques qu'il faut diffuser le plus largement possible auprès de ces acteurs du droit commun qui ont aussi besoin d'être accompagnés. Donc c'est bien normal qu'il y ait eu un acteur spécifique, un ministère spécifique qui soit nommé. C'est comme tout, il est normal qu'il y ait un comité paralympique qui puisse exister aux côtés des acteurs de droit commun du sport français.
Et puisqu'on reste là sur le gouvernement et sur l'après, tu es dans un comité de pilotage de la loi héritage. Est-ce qu'on sait ce que, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que cette loi et ce qu'on sait de la suite?
Eh bien, évidemment, l'idée, c'est d'ancrer dans le marbre des dispositions qui permettent que la France soit une nation ou devienne une nation encore plus sportive, qu'il y ait plus de Français, de Françaises, de citoyens français et de citoyens tout court qui puissent bouger davantage. Aujourd'hui, nous, on veut pousser des sujets qui nous semblent très très importants. Je vais en donner deux ou trois, sans être exhaustif, parce que le travail démarre simplement. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut quand même s'interroger sur le financement du sport, avec des modalités qui peuvent nous paraître simples. Alors, est-ce qu'elles sont simplistes ? On le verra, mais en tout cas, nous, on va les pousser. Le financement du sport doit se faire par le sport, pour moi, avec le déplafonnement de la taxe Buffet, par exemple. On sait quand même que ça a rapporté plus de 1,1 milliard d'euros en 2023. Et donc, je crois qu'il y a une partie plus importante de ce milliard, 1,1, qui doit revenir au sport et financer le sport amateur, le sport pour tous. Je crois que le statut du bénévole doit enfin bouger. On attend tous que une loi vienne aider cette dimension, et d'ailleurs j'ai entendu le Premier ministre jeudi soir sur France 2 qui disait qu'il voulait soutenir le bénévolat. Alors allons-y, j'ai envie de dire, mais voilà. Et puis ça va aussi, par exemple, sur le statut du président de fédération, qui aujourd'hui est une zone grise, mais alors vraiment incroyable. Et comment peut-on imaginer demain des fédérations qui soient encore plus performantes, qui déploient encore plus d'activités, sans des présidents qui soient à temps complet sur cette mission si importante pour le sport en France. Donc voilà, je crois qu'il y a beaucoup à faire.
On en parlera, mais je crois que Virgile, tu dois nous quitter là. Je voulais. Est-ce que tu peux encore nous dire quand même, parce qu'on va parler des priorités, des besoins pour la suite. Est-ce que tu peux
sur la loi héritage moi j'attends qu'on nous donne un peu les règles du jeu, parce que n'oublions pas que c'est quand même un sujet dont on parle depuis presque une année. À juste titre, la notion de loi d'héritage a été anticipée à bien avant les Jeux, et c'était la bonne formule. Maintenant, on sait les difficultés politiques qu'on a pu rencontrer donc sur ces 6 derniers mois. Et voilà, donc cette loi d'héritage, moi j'attends qu'on me dise, est-ce qu'elle verra bien le jour ? Combien d'articles, c'est-à-dire quel serait son périmètre, parce que je pense qu'il faut, comme le disait Gilles, inscrire dans le marbre un certain nombre de sujets, y compris aussi des sujets autour du statut des sportifs et de la protection de ces sportifs pour permettre dans la durée, pour faire en sorte que dans la durée, les entreprises s'engagent à leur côté, mais qu'il n'y ait pas d'incertitude juridique autour de ce type de contrat qu'on pourrait requalifier en contrat de travail, comme c'est un petit peu ce qui risque de se passer. Donc il y a quand même un certain nombre de points d'incertitude, moi, qui me dérangent un peu. Mais effectivement, ce serait quand même incongru qu'après des Jeux aussi réussis, aussi fabuleux, on ne soit pas en capacité d'avoir une loi qui cadre un certain nombre de points.
Très bien. Je crois qu'on doit te laisser, Virgile.
Merci. Bon congrès. Et Élie et Gilles, vous savez que vous pouvez compter sur nos acteurs pour accompagner le mouvement sportif.
Merci, Virgile. À bientôt.
Merci beaucoup, Virgile, d'avoir adapter ton agenda et bon congrès. Et je crois, Élie, que tu voulais...
Oui, en deux mots, mais pour compléter les propos de Gilles et de Virgile, il y a un enjeu fondamental dans les mois qui viennent, c'est de conserver la centralité institutionnelle du sport. Les Jeux ont mis à l'agenda politique et institutionnel le sport dans toutes ses dimensions. On ne pouvait pas faire autrement puisque l'événement était tellement important qu'évidemment, on allait tous s'interroger sur l'impact qu'il allait avoir. L'enjeu qu'on va aussi avoir d'avoir, c'est de conserver cette force du sport et notamment l'interministériel. Moi, j'ai eu, avant d'être au sein du comité paralympique, ça fait bien longtemps maintenant, mais j'ai été au sein d'un cabinet ministériel sportif. On était un nain politique à l'intérieur du gouvernement. On était un nain politique. Ce que j'ai vu là ces dernières années, c'est que le sport n'était plus un nain politique au sein du gouvernement, qu'il arrivait à aller chercher des arbitrages, en gagner, ce que nous n'avions jamais à faire. Et je crois que c'est vraiment aussi un enjeu là, c'est de consolider, en fait qu'on forme vraiment un tout, un collectif, jusqu'au ministre, jusqu'à ses équipes, pour faire en sorte que le ministre soit fort et costaud pour défendre au maximum le secteur sportif.
Très bien. Alors, sur ces bonnes paroles, est-ce que tu peux... On va faire la pause musicale avant de parler de vos priorités, vos besoins encore plus en détail. Est-ce que tu te rappelles de ton choix, Élie ?
Oui, il s'agit de Nina Simone et d'une chanson qui s'appelle Thin Line Woman. Et en fait, ça m'a fait plaisir de... D'abord, parce que j'aime beaucoup Nina Simone et c'est une artiste absolument extraordinaire, évidemment, mais ça, je ne suis pas le premier à le dire. Mais deuxièmement, parce que je trouve que quand on est praticien du sport, on est parfois centré sur nos propres vécu et dans un univers qui gagnerait parfois à s'ouvrir à des points de vue un petit peu différents. Et Nina Simone, dans chacune de ses chansons, nous invite toujours à regarder la situation d'un point de vue un peu différent. Il ne s'agit pas de handicap, là il s'agit des femmes et ça s'appelle Sea Line Woman.
On écoute Nina Simone.
All right, yeah. All right. She lie moon. She drink coffee. She drink tea and then go home. She lie woman. She lie moon. Dressed in green. Wear silk stockings with golden seams. Sea lion woman, sea lion woman, dressed in red, make a man lose his head. Sea lion woman, sea lion woman, black dress on for $1,000. She wails and she moans. Sea lion woman. Cat. Wink at a man and he wink back. Now I'm tired of sea lion woman. Empty his pockets and wreck his days. Make him love her and shoot fly away. Empty his pockets and she wreck his days and she make him love her then she shoot fly away. She got a black dress on for $1,000. She wail and she
Vous êtes bien sur Cause Commune dans votre émission Vivons Sport. Notre émission est sur l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques. Nous sommes toujours en studio avec Gilles Herbe, président de la commission Héritage 2024, membre du bureau élargi du Comité Olympique et Sportif Français, président de la Fédération Française de Tennis de Table, et Élie Patrigeon, directeur du Comité Paralympique et Sportif Français, comité qui est représenté à la commission Héritage 2024. Alors on a parlé, effectivement, c'est normal que la vie politique continue. On est aussi dans un calendrier un peu spécial puisque, et c'est normal aussi, les fédérations puis les comités vont avoir leurs élections comme à la fin de chaque Olympiade. Je sais, Gilles, que quand on a préparé, tu m'as dit que c'est le club qui est le plus important. Est-ce que ça va déstabiliser ce calendrier et pourquoi c'est le club qui est le plus important?
Alors déjà, revenir sur un élément qui est important, c'est que effectivement, cet héritage vient à un moment où les fédérations sont dans une sorte de parenthèse, non pas enchantée, mais de parenthèse avec ces élections, ces campagnes électorales, etc. Alors je veux pas dire que les fédérations sont à l'arrêt, mais quand même, on n'est pas dans la meilleure disposition pour faire des grands projets et des grandes manœuvres.
Alors, est-ce que ça, c'est
Alors, les clubs.
Ouais. Compliqué ou pas, ouais. le fait qu'il y ait ces élections.
Ça complexifie en tout cas les choses.
Ça peut reporter
choses.
Certaines choses.
C'est certain. Moi, je crois que c'est quand même les clubs, vers les clubs qu'il faut qu'on s'attache. Je crois qu'un héritage réussi, ce serait un héritage qui renforcerait les clubs pour qu'ils puissent accueillir plus de monde, qu'ils puissent accueillir mieux. La population et faire en sorte qu'elle puisse bouger davantage. Le club, c'est le maillon finalement où tout se fait dans notre société. C'est le maillon où on rencontre des gens, c'est le maillon où on peut s'épanouir, c'est le maillon où on peut vivre la fraternité et on peut bien sûr être en bonne santé. Donc je crois que le club, c'est vraiment le petit trésor qui nous est offert, et je crois que un héritage particulièrement réussi serait un héritage qui donne plus de dimension au sport, au club sportif, pour ces questions d'éducation, pour ces questions de santé publique, et c'est pour ça que tout à l'heure j'intervenais sur la question du statut du bénévole. Je crois que c'est très important, hein, pour qu'il y ait des clubs, il faut qu'il y ait des dirigeants, et comment on fait aujourd'hui pour que on ait des dirigeants qui soient engagés, qui aient envie de construire des projets, d'étendre leur surface, d'accueillir plus de monde. Eh bien, je crois qu'il faut les soutenir et les aider à vivre leur engagement de façon sereine et donc durable.
Élie, c'est le club aussi qui est ce maillon le plus important.
Oui,
et qu'est-ce qui leur manque alors au club?
Tout part du club. Il y a 167 000, je crois, clubs fédérés en France, c'est-à-dire le réseau associatif le plus important qui existe dans notre pays, qui contribue de manière presque démesurée au lien social. C'est-à-dire, je ne sais pas quel est l'équivalent aujourd'hui en termes des créations de liens sociaux que le club sportif fédéral dans tous les territoires de ce pays. Il y a des associations sportives dans tous les territoires de ce pays, quels qu'ils soient, y compris les territoires où les services publics ne sont plus trop présents, y compris les territoires où les services publics ont du mal à aller, où on a des nécessités de recréer du lien entre les gens qui parfois se parlent pas, etc. Donc on est vraiment dans un élément absolument fondamental du maillage social de ce pays, et il faut le conforter. On en revient toujours au statut du bénévole, mais le club ne tient que parce qu'il y a des bénévoles, bien sûr parce qu'il y a des subventions publiques, bien sûr parce qu'il y a des sponsors qui aident, mais sans les bénévoles qui les font vivre, ces clubs-là ne vivent pas. Il y a un enjeu de formation de ces bénévoles, il y a un enjeu aussi très probablement de travail sur peut-être des cotisations retraite qui pourraient être des éléments qui viendraient, une forme de gratification de l'engagement au long terme des bénévoles, et qui viendraient reconnaître l'apport social de ces bénévoles à la collectivité nationale, à la nation tout entière. Et ça, c'est des enjeux sur lesquels il faut absolument qu'on bosse. Nous, on est en train de continuer à travailler pour vous donner un ordre d'idée. Globalement, aujourd'hui, on estime que 4 à 5 % des clubs de ce pays sont para-accueillants, accueillent des personnes en situation de handicap. C'est 5 fois plus qu'il y a 6 ans. Hein. Donc la progression, elle est déjà assez énorme, mais ça reste malgré tout minoritaire. Et c'est pourtant notre axe de développement prioritaire. C'est là où on doit agir. Et donc nous, on va continuer à accompagner les clubs aussi, parce que je crois que le rôle des institutions nationales, telles que les fédérations, telles que les comités, et plus largement l'ensemble de ceux qui concourent aux politiques publiques du sport, c'est d'accompagner ces clubs et de faire en sorte qu'ils trouvent chez nous des externalités positives, c'est-à-dire des formations les moins complexes qui soient, mais qui soient les plus, avec un apport de valeur important, des capacités à appuyer de l'ingénierie sur des appels à projets. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de subventions directes, on n'est que sur des appels à projets. Et pour les clubs, c'est l'enfer, parce que il faut avoir des compétences en interne vraiment très importantes pour pouvoir gagner ces appels à projets. Donc, apporter des solutions aussi transversales à la vie des clubs, je pense que c'est un des enjeux aussi que nous avons, nous, collectivement, comme institution nationale.
Alors, donc, je relève le bénévolat, la formation des clubs, des vols, peut-être des salariés aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'infrastructure, d'équipement sur le territoire ? Gilles.
Les infrastructures sont vraiment au cœur du sujet. Je crois que le parc d'équipements sportifs en France est totalement insuffisant et pour une bonne partie dans un état qui n'est pas digne de recevoir nos citoyens. La plupart des installations sportives et équipements sportifs datent des années 60 et il n'y a qu'un tiers de ces équipements qui ont été rénovés. Pour accueillir aujourd'hui plus de monde, il faut qu'on ait des douches qui fonctionnent, il faut qu'on ait de la lumière, il faut qu'on ait un peu de chauffage quand même, il faut qu'on ait un lieu de vie qui permette d'accueillir. La société a évolué, la société, les gens attendent d'autres services qu'il y a 30 ou 40 ans. Et en plus de ça, on est sur un marché des offreurs de pratiques sportives qui a évolué et qui est concurrentiel aussi. Et donc on a besoin, pour nos clubs sportifs fédérés, d'avoir des moyens en équipement qui soient de meilleure qualité. Et là, je crois qu'il y a un véritable plan à mettre en place. Certains diront un plan Marshall, mais je crois qu'il y a vraiment un effort à faire, une urgence sur les équipements sportifs à réaliser par le pays.
Alors, Élie, il y a eu un plan équipement, pourra-t-on nous répondre, de 5000 équipements, je crois. Mm-hmm. Sur ces équipements, et notamment sur l'accessibilité aussi de ces équipements. Alors, on sait bien que toutes les personnes en situation de handicap n'ont pas en fauteuil roulant, mais quand même, en termes d'accessibilité.
Déjà, la première accessibilité d'un équipement sportif, c'est sa disponibilité. Et quand il n'y en a pas assez, ils sont effectivement saturés. Et quand vous voulez créer de nouvelles pratiques, et notamment des pratiques où vous n'allez pas avoir énormément de pratiquants dans un groupe en situation de handicap, par exemple, de personnes qui ont des problèmes cognitifs et donc que vous allez devoir surencadrer et que vous n'en aurez pas 20 dans votre groupe parce que sinon ça ne fonctionnera pas, effectivement, il y a une tension sur les créneaux parce qu'il n'y a pas suffisamment d'équipement. Et là, vous allez accueillir peut-être 4-5 personnes. Quand un groupe de personnes valides, ça sera 25 personnes, et à un moment donné se créent comme ça des concurrences qui sont des concurrences néfastes, dues au fait qu'on n'a pas suffisamment d'équipement, et dues au fait aussi que peut-être on a eu évidemment des plans d'équipement ces dernières années, ils ont été ambitieux, c'est vrai, mais néanmoins ils se sont focalisés sur des équipements dits légers, souvent en autogestion, avec une gestion exactement ouverte. C'est des équipements sur lesquels, d'une part, on ne fait pas toutes les pratiques sportives, on fait pas de ping, on fait pas de badminton quand il y a plein de vent, ça marche pas en extérieur, donc c'est des choses sur lesquelles évidemment qui sont pas des pratiques complètement ouvertes. Puis deuxièmement, ces équipements totalement ouverts sur la cité au sens premier du terme, sont aussi des équipements qui, s'ils sont pas animés, peuvent devenir eux-mêmes excluants. Vous ne voyez jamais dans un certain nombre d'équipements de jeunes femmes quand ils sont complètement ouverts et qu'ils ne sont pas animés. Vous ne voyez jamais de personnes en situation de handicap dans ces équipements, parce que là aussi, et c'est bien pour ça que le club est un trésor, comme le disait Gilles à l'instant, c'est que le club, en fait, il y a des gens qui l'animent, il y a des gens qui mènent un projet associatif et qui donc vont réfléchir à comment accueillir le public. Et quand on a des équipements qui ne sont pas plus réfléchis plus largement que ça, on a des équipements qui accueillent pas tout le monde. Ça, c'était mon le premier point. Le deuxième point, c'est que là où peut-être on doit continuer à réfléchir, il faut continuer à investir et à bâtir des équipements. Le sens de mon propos est évidemment pas celui-ci, mais on a encore des gisements d'équipements qui sont insuffisamment étudiés. Les établissements et services médico-sociaux, qui sont au nombre de 18 000 dans ce pays, disposent le plus souvent d'équipements sportifs en leur sein. Et je peux vous dire que les liens avec les clubs sportifs sont quasiment nuls, égal à zéro. Alors nous, c'est un des axes de développement qu'on est en train de travailler, mais on a encore encore aussi des gisements à aller chercher pour faire en sorte que, eh bien, des secteurs puissent dialoguer et s'ouvrir aux clubs sportifs de proximité qui peuvent venir utiliser une salle multisport dans un établissement le week-end sans qu'on nous oppose des histoires d'assurance qui sont honnêtement des obstacles de papier et qu'on peut résoudre à un moment donné.
Oui. Alors rapidement, parce qu'il reste encore une question et on arrive.
Donc très rapidement, moi Élie, je suis plutôt assez favorable aux équipements de proximité. En complément des équipements plus structurants, parce que je crois que en même temps c'est important d'aller au plus près des plus éloignés du sport et entrer dans une salle, dans un club, c'est pas si facile. Par contre, je crois que le rôle du club, c'est d'aller animer ces espaces.
Absolument.
Pour garantir la diversité des profils de pratique sur ces espaces. Absolument. Ça, c'était le premier point. Et tu l'as dit à travers les EHPAD, et moi j'ai envie de faire le même parallèle avec l'école. Aujourd'hui, un des héritages, ça doit être de renforcer le sport à l'école, parce que tous les enfants vont à l'école. Donc l'éducation au sport, au corps, doit se faire à l'école. Et là, il faut le reconnaître, ces dernières années, le sport a été plutôt écarté de l'école. Alors bien sûr, ne confondons pas sport et éducation physique, mais aujourd'hui le sport a été écarté au profit d'une éducation physique qui est un enjeu différent, si on veut. Et donc là, il y a beaucoup à dire. Mais moi, quand je vois aujourd'hui, de manière très très simple et très rapide, la formation des professeurs des écoles qui a perdu la question de l'EPS et du corps. Quand je vois le volume des cours de PS au lycée et au collège, il est ridicule, faut se le dire. Quand je vois la faiblesse du lien entre les clubs et l'école, je crois que là on a beaucoup à faire. Et évidemment, ça se traduit par des équipements scolaires. Je crois qu'ils sont 26 000 qui sont sous-utilisés à certaines horaires. Et je pense notamment aux soirées ou au week-end.
Faudra la mettre dans la question suivante, s'il y a un rebondissement, puisque je voulais quand même qu'on parle de 2030, du coup, est-ce que c'est une opportunité ou pas, par rapport à l'héritage ou d'autres choses? Donc, pour rappel, la France recevra les Jeux d'hiver en 2030, donc chance ou pas.
Alors, oui, enfin, moi je suis convaincu d'abord, d'une part, que un événement en tant que tel, que ce soit les Jeux Olympiques et Paralympiques ou autre chose, n'est pas bon en soi. Il est bon de ce que l'on en fait. Et donc la question, c'est le projet, la vision qu'on en a. Si la vision et le projet des Jeux de 2030, et c'est le cas, j'en suis partie prenante, donc je ne vais pas vous dire l'inverse, mais est de réfléchir d'une part à quel est l'avenir du tourisme de montagne et des sports de pleine nature, au-delà même des sports d'hiver, compris les sports d'hiver, mais au-delà même des sports d'hiver, et que par ailleurs, ces Jeux travaillent à faire en sorte que les territoires impactés par ces Jeux soient le plus inclus, le plus fédérés autour de l'événement, je pense que ces Jeux sont une chance, et je pense que collectivement, sur le plan national, ils le sont aussi pour une raison simple, c'est qu'ils vont mettre de nouveau à l'agenda un événement majeur qu'on ne peut pas louper. Et dès lors qu'on a cet événement majeur qu'on ne peut pas louper, eh bien ça fédère les énergies et ça fédère l'ensemble des acteurs qui parfois peuvent faire un pas de côté quand il s'agit d'activité physique et sportive et du sport. Donc je pense que oui, effectivement, c'est une opportunité.
Gilles?
Oui, je partage les propos d'Élie. C'est une chance et on doit faire en sorte que ce soit une chance. C'est comme ça, à mon avis, qu'il faut le voir, mais ça va nous permettre de continuer à raconter une histoire, ça va nous permettre de continuer à mobiliser les acteurs autour d'une vision, et cette vision, c'est quoi? C'est que demain, le sport peut être utile à la société. Mmh. Donc je crois que c'est ça qu'il faut défendre à travers cet événement.
Je vous promets que d'ici 2030, vous aurez l'occasion de venir en reparler ici et de faire un point. Merci à nos trois invités, Virgile Caillet, Élie Patrigeon et Gilles Herbe. Un grand merci à Jérôme Sorel pour la réalisation. La Ligue Sport Adaptée Île-de-France nous a envoyé une annonce pour une randonnée Sport Santé Adaptée qu'elle organise le jeudi 17 octobre 2024 au Parc de Sceaux, dans les Hauts-de-Seine. La journée est ouverte à l'ensemble des personnes en situation de handicap mental et ou psychique. Vous trouverez les renseignements et le formulaire d'inscription sur le site de la Ligue. Nous le mettrons également sur nos réseaux sociaux. Attention, les inscriptions seront closes le 15 octobre. Vous aussi, transmettez-nous vos annonces, remarques et questions sur le chat sur le canal Vivons Sport, sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter X et mon compte LinkedIn Karine Bloch. Dans la prochaine émission, nous parlerons donc de l'évaluation, de la mesure d'impact de ces jeux, des méthodes utilisées, des indicateurs, des premiers résultats et des études en cours. Comme nous l'avons souligné, l'importance du décloisonnement, chère à notre émission, nous inviterons des représentants d'autres secteurs tels que le Comité olympique des Jeux, les pouvoirs publics et des experts en évaluation. Bon sport à toutes et à tous, et à très vite.
Et Lambanoudou qui accélère, Lambanoudou qui termine, Lambanoudou est championne du monde.
Pas ça, Zinedine. Oh non, pas ça.
Regardez l'équipe de France qui fait la saga.
Saga Africa, ambiance de la
France. Has the power to change the world. It has the power to unite people.